Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous voici arrivés au premier dimanche de carême. Au début de ce temps de pénitence, par l'évangile de la tentation de Jésus au désert, l'Église veut nous placer devant l'une des grandes réalités de notre vie sur terre, à savoir les tentations. Elle veut nous faire comprendre que cette réalité des tentations est l'une des raisons importantes qui nous oblige à faire pénitence. Demandons-nous donc d'où viennent les tentations, quelle est leur utilité et comment les combattre. Tout d'abord, d'où viennent les tentations? Elles proviennent de trois sources, de la chair, du monde et du démon. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, dit saint Paul aux Galates. Par la chair, saint Paul désigne toute notre nature en tant qu'elle est blessée par le péché originel. Certes, le baptême a effacé en notre âme la tache du péché originel, hérité d'Adam, mais après le baptême, notre nature reste fragilisée, un peu comme quelqu'un qui aurait subi une opération chirurgicale, mais qui conserve de grosses cicatrices qui le rendent fragile et qui gênent ses mouvements. Et ce sont toutes nos facultés qui sont blessées. Dans l'intelligence, il y a ce qu'on appelle la blessure d'ignorance, par laquelle l'intelligence, pourtant faite pour la vérité, peut se tromper, surtout si elle est aveuglée par les passions. Dans la volonté, c'est la blessure dite de malice. Alors que notre volonté est faite pour le bien, nous sommes facilement attirés par de faux biens qui satisfont notre égoïsme. Une autre blessure est celle de la faiblesse. Il nous est difficile de faire des efforts, de persévérer dans nos bonnes résolutions. Enfin, il y a la blessure dite de concupiscence, qui conduit aux excès dans le boire et le manger, et surtout qui rend sensible aux tentations impures. Voilà ce qu'est devenu l'homme depuis le péché d'Adam. Ce n'est pas le mythe de l'homme naturellement bon de Jean-Jacques Rousseau, nous en sommes loin. Ces blessures, il faut bien le comprendre, ne sont pas des tendances fatales qui nous conduiraient fatalement à pécher. Elles sont une fragilité qui rend sensible aux tentations. Hélas, à cette fragilité s'ajoutent souvent les tendances positives qu'ont pu imprimer dans notre âme de mauvaises habitudes non combattues pendant des années et qui sont devenues des vices. Et ces vices sont comme les ronces de nos jardins. Notre premier ennemi, c'est donc nous-mêmes. Notre deuxième ennemi, c'est le monde. Le monde, au sens évangélique, c'est l'ensemble des hommes qui ont pris pour règle de conduite les trois concupiscences dont parle l'apôtre saint Jean. Tout ce qui est dans le monde, dit-il, est concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et orgueil de la vie. Autrement dit, le monde, c'est le matérialisme, l'impureté et l'orgueil ou l'ambition. C'est d'ailleurs ce qui agite en permanence la planète aujourd'hui. Et le monde actuel est source de grandes tentations pour les chrétiens. Enfin, la troisième source de tentation après la chair et le monde, c'est le démon. Le mot démon, c'est un nom collectif qui désigne tous les esprits infernaux coalisés sous la conduite de Lucifer, leur chef, pour la ruine des âmes. Le démon est en train de livrer aujourd'hui une bataille décisive avec la Vierge, dit sœur Lucie de Fatima. Et une bataille décisive est une bataille finale où l'on saura de quel côté est la victoire et de quel côté la défaite. Aussi, dès à présent, où nous sommes à Dieu, où nous sommes aux démons, il n'y a pas de moyen terme. Le démon est un ennemi redoutable en lui-même, non seulement à cause de sa haine contre nous, mais aussi à cause de la supériorité de sa nature. Malgré sa chute, il a gardé les qualités de sa nature angélique, à savoir une intelligence extraordinaire, et surtout, il a l'art du mensonge. Il ne faut jamais discuter avec lui. Cependant, il est important et rassurant de savoir que le démon n'a pas le pouvoir d'entrer par lui-même dans notre âme. Elle lui est fermée. Il ne peut entrer que si nous lui ouvrons la porte, disons, que si nous avons la sottise de lui ouvrir la porte. Il est comme un chien dangereux, mais qui est enchaîné. Tant que nous ne nous approchons pas, nous ne risquons rien. Hélas, nous nous approchons. Et c'est par ses souffrances et sa mort sur la croix que notre Seigneur a enchaîné le démon. La seule chose qu'il peut faire, qu'il lui reste à faire alors, c'est de nous attirer pour que nous nous approchions toujours plus de lui. Et il est très habile à ce jeu. Il sait mélanger la vérité et l'erreur. C'est ce qu'on appelle par exemple les tentations sous apparence de bien. Donnons un petit exemple. On se rajoute sans cesse des occupations, bonnes en elles-mêmes, mais qui déséquilibrent toute notre vie intérieure, dans une famille qui déséquilibre la vie familiale et qui finissent par causer des divisions dans la famille. Ah oui, mais c'était bien de faire cela. Ben oui, mais... Il sait jouer aussi sur les passions, comme il sait faire tomber facilement dans l'impureté avec Internet. Il excite la curiosité, on s'attarde à regarder et il fait tomber. Disons maintenant l'utilité des tentations dans la vie chrétienne. Il est important d'en parler parce que nous sommes sans doute tentés de dire « Ah, comme nous serions heureux si nous n'avions pas de tentations !» Le Saint-Esprit dit au contraire dans le livre de l'Ecclésiastique « Bienheureux l'homme qui subit la tentation !» Avouons que d'un point de vue purement humain, c'est assez paradoxal. Mais il faut lire plus loin la phrase. Bienheureux l'homme qui subit la tentation, lorsqu'il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie. La principale utilité des tentations, c'est donc de nous obtenir une grande récompense dans le ciel. Et oui. Saint Paul prend la comparaison avec les jeux du stade à son époque. Ne recevaient la couronne de laurier que ceux qui avaient lutté selon les règles. On peut prendre aussi la comparaison avec la vie militaire. Les grands capitaines, les héros couverts de médailles qui ont illustré notre histoire, ce sont ceux qui se sont illustrés sur le champ de bataille. Ce ne sont pas ceux qui sont restés à la caserne, du moins habituellement. Eh bien, il en est de même pour le ciel. Notre bonheur du ciel sera la récompense des combats que nous aurons menés sur cette terre contre les tentations de la chair, du monde et du démon pour rester fidèles à notre Seigneur. C'est dans l'épreuve que l'on reconnaît les vrais amis. C'est dans nos épreuves que notre Seigneur reconnaîtra si nous sommes vraiment ses amis. Une autre utilité des tentations, c'est de nous aider à mieux nous connaître, donc à être plus vigilants sur nous-mêmes à l'avenir. Celui qui n'a pas été tenté, que sait-il ? Dit le livre de l'Ecclésiastique. Quand un ennemi veut attaquer une forteresse, il en cherche les points faibles. Eh bien, c'est ce que cherche le démon. Alors, s'il nous attaque régulièrement sur un point précis, c'est le signe que c'est un point à fortifier sans tarder si nous ne voulons pas tomber un jour dans des fautes très graves qui peut-être nous perdront. Les tentations sont aussi une occasion de progresser dans la vertu. C'est dans la difficulté que la vertu se perfectionne, dit saint Paul. Comment apprendre l'obéissance si personne ne nous commande, dit saint François de Sales. Comment apprendra-t-il la patience celui que nul ne contredit? La constance, celui qui n'a rien à souffrir? L'humilité, celui qui n'a point de supérieur? Enfin, les tentations doivent être une occasion d'union toujours plus grande à notre Seigneur, et c'est le plus important. Si nous n'avions jamais de tentations, nous nous appuierions toujours sur nous-mêmes, de plus en plus sûrs de nous, devenant très orgueilleux, le pire des péchés. Les difficultés, le danger des tentations sont au contraire une école d'humilité, parce qu'elles nous ramènent à notre Seigneur. Elle nous oblige à prier davantage, à nous approcher davantage des sacrements. C'est la meilleure des choses. Et ceci nous conduit à parler maintenant de la manière de réagir en temps de tentation. Notre Seigneur nous a donné la clé de la victoire du jeudi saint au soir. C'est intéressant de voir que le dernier conseil qu'il a donné à ses apôtres avant d'être emmené par les soldats pour affronter l'épreuve de sa passion, ce dernier conseil concerne l'attitude à avoir dans les tentations. « Veillez et priez, dit-il, afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Veillez. Veillez, cela revient à dire « Soyez sur vos gardes, comme un soldat sur un champ de bataille. » L'Église nous fait entendre chaque jour accomplie cette phrase de l'apôtre Saint-Pierre. « Le démon rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Il guette nos moments de fatigue, ceux où nous sommes dans l'oisiveté. La vigilance s'exerce par l'examen de conscience, qui nous découvre les faiblesses, les négligences que nous pouvons avoir eues et qui ont pu nous faire tomber. Alors soyons désormais plus prudents, spécialement en fuyant les occasions de tentation. Telle fréquentation dangereuse, ce téléphone portable qu'on emporte imprudemment le soir dans sa chambre sans aucune nécessité. Un clic, et c'est parti. La vigilance facilitera la contre-attaque. Et celle-ci diffère selon le type de tentation. Il y en a certaines qu'il faut attaquer de front. Si c'est une tentation de paresse, se secouer en pensant à la croix de notre Seigneur, apporter notre croix chaque jour à sa suite. Si c'est une tentation contre la charité, une antipathie naturelle, eh bien, prions pour cette personne et tâchons, si c'est possible, de faire un acte positif de charité à son égard. Pensons que la charité chrétienne, c'est une vertu surnaturelle. Elle s'exerce lorsque nous allons au-delà de nos répulsions naturelles pour faire le bien. Si c'est une tentation d'orgueil, redisons-nous la parole de saint Paul que nous pourrions apprendre par cœur. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? D'autres tentations, par contre, ne doivent s'attaquer que par la fuite, comme des tentations de blasphème ou d'impureté. Surtout ne pas s'y attarder et s'occuper immédiatement d'autre chose, surtout dans la journée. Et pour chasser les mauvaises pensées, on peut dire « Je vous salue Marie ». On peut aussi, par exemple, si cela nous arrive la nuit, des mauvaises pensées, par exemple, réciter intérieurement le « Je crois en Dieu » en étant très attentif à chaque mot. C'est très efficace pour arracher à la tentation. Réciter le « Je crois en Dieu » en étant très attentif à chaque mot pour chasser les mauvaises pensées. On peut aussi demander des conseils en confession, bien sûr. Et au conseil de veiller, notre Seigneur ajoute celui de prier. En une autre occasion, notre Seigneur avait dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais avec lui, tout est possible. À saint Paul, qui par trois fois supplia notre Seigneur de lui épargner cet aiguillon de la chair par lequel le démon le souffletait, comme il écrivit, Jésus répondit « Ma grâce te suffit. » Il l'a bien expérimenté puisqu'il put écrire « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera les moyens d'y résister. » Mais pour obtenir cette grâce, il faut prier. Prière à Jésus, prière à Marie, prière entre les tentations, prière pendant les tentations. Il faut toujours prier sans jamais se lasser, nous dit notre Seigneur. Il m'invoquera et je l'exaucerai et je le délivrerai, nous a-t-il dit à notre hôte de cette messe. La prière est l'arme par excellence qui nous donne la force de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, dit saint Paul. Dans ce registre de la prière, il faut bien sûr ajouter les sacrements, confession, communion, et ne pas oublier la pénitence, la mortification, qui donne sa force à la prière. Par sa victoire sur le démon au désert, notre Seigneur nous a mérité la victoire sur toutes nos tentations. Mais nous ne vaincrons qu'avec lui. Alors demandons à la Sainte Vierge de nous en convaincre toujours plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.